Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Myriam Moussier, bonjour.
Bonjour Solange.
Vous venez de faire paraître aux éditions Flammarion un livre dont le titre est « L'équilibre dans l'assiette, une méthode simple et ludique pour retrouver du plaisir à manger ». Alors vous êtes diététicienne nutritionniste et voilà un livre qui va nous faciliter un peu la vie lorsque nous voulons manger, parce que manger, pour moi en tout cas, c'est un acte de plaisir, un acte instinctif. Et comment faire pour, au moment où on a envie, on rêve de certaines choses, on salive, comment faire pour être raisonnable, pour prendre les légumes qu'il faut, les poissons qu'il faut, etc. Alors, parlez-nous donc déjà de ce livre, sa composition.
Alors, pour moi, c'était très important d'écrire ce livre sur l'équilibre alimentaire, parce que c'est toute ma vie, en fait. C'est 30 ans de vie professionnelle, et pour moi, l'approche dans l'apprentissage de l'équilibre nutritionnel, c'est la base. Voilà, quand je reçois un patient, pour moi, c'est très important qu'il comprenne en fait pourquoi il doit manger équilibré. Parce que dans notre vie actuelle, on vit tellement à 100 000 qu'en fait, on passe des fois à côté. Voilà, moi, mon objectif, c'était d'essayer de transmettre le plus possible voilà, cet équilibre nutritionnel. Alors, de par mon expérience et mes 30 ans de consultation en libéral, j'ai peaufiner cette méthode avec ce code couleur pour essayer de rendre les choses plus visuelles et plus ludiques. Donc, ce que j'ai essayé de mettre donc dans mon livre, ce code couleur en fait représente les différentes familles nécessaires à notre organisme parce qu'elles apportent chacune en priorité un nutriment qui est indispensable au corps. Donc, la première partie du livre, donc j'explique l'intérêt de ces nutriments. Je montre voilà les différentes familles d'aliments, qu'est-ce qu'elles représentent. Donc, il y a bien sûr la famille des protéines, avec la viande, les poissons, les œufs, les protéines végétales. Il y a la famille des glucides complexes où on retrouve donc les féculents, le pain. Il y a la famille en vert donc des légumes et des fruits qui apportent les fibres, les vitamines et les sels minéraux. En bleu, on aura l'apport en calcium qui est apporté en priorité par les produits laitiers et aujourd'hui les produits végétaux enrichis en calcium. Il y a en jaune les matières grasses pour les lipides avec les matières grasses animales et végétales, des huiles donc le beurre, la crème, etc. Et il nous reste en jaune, donc j'ai dit, et j'ai oublié le sucre, donc qui est en fait l'apport, les sucreries, voilà, le plaisir. Alors, il n'y a pas d'apport, on va dire, principal, mais c'est plutôt le plaisir dans cette famille-là, voilà. Donc, à partir de là, j'ai pu établir après des graphismes au niveau des assiettes pour essayer de montrer, voilà, avec les couleurs, quelle était la principale quantité qu'on devait avoir de chaque famille. Et que l'on veuille d'ailleurs perdre du poids ou stabiliser son poids. Et les trois quarts du livre, après, eh bien, c'est 8 semaines de menus qui vont pouvoir permettre de mettre un petit peu tout ça en application. Des semaines de menus pour chaque saison qui sont chacune très équilibrées à la journée et à la semaine. Après, bien sûr, on n'est peut-être pas obligé, si on veut, de les suivre à la lettre et de piocher dedans, ce qui permet d'avoir dans le livre plus d'une centaine de recettes.
Alors, vous parlez aussi, bien sûr, des vitamines et on en parlera après. Alors, les lipides, oui. Quel est le rôle des lipides et quelles sont les sources? De même pour les glucides, les fibres, les minéraux. Alors, parlez-nous un petit peu de ces différentes rubriques, leur rôle et où est-ce qu'on peut les trouver?
Alors au niveau des lipides, ils vont avoir quand même des rôles multiples. Alors on a souvent tendance à avoir peur des lipides et donc des matières grasses en priorité quand on veut faire attention à soi, mais le corps en a extrêmement besoin. Il rentre quand même dans la composition de nombreuses cellules, dont notre cerveau, hein, quand même. Voilà. Il est aussi un apport en énergie et on a quand même besoin de beaucoup d'énergie dans une journée. Et certains lipides vont rentrer aussi en jeu dans la fabrication de certaines hormones, donc ils sont vraiment indispensables. Les glucides, là, ça va être notre carburant. Voilà, on a besoin en priorité des glucides pour fonctionner. Il y a quand même le plus gros apport énergétique par jour, c'est quand même 55% de glucides dans une journée, hein, moyenne. Le cerveau est glucodépendant, donc il a absolument besoin de ces glucides pour fonctionner. Sinon, on va vite se retrouver très fatigué avec des problèmes de migraines, en fait, un affaiblissement général. Donc, ils sont importants et on les trouve donc en priorité. C'est vrai dans les féculents, ça va être les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain, hein, tous ces dérivés, les légumineuses aussi, on en trouve en grande partie. Bien sûr, les fruits apportent aussi un petit peu de glucides ainsi que les légumes. Ensuite, tout ce qui est fibres, vitamines et sels minéraux, la priorité, c'est les légumes. Voilà, les légumes sont vraiment très, très, très importants pour ça, parce que c'est eux qui en apportent le plus avec, avec les fruits. Dans ma méthode, moi, je mets les légumes à volonté. Ils sont là aussi pour compléter le volume du repas. Être sûr d'apporter ces vitamines et sels minéraux dont on a besoin et l'apport en fibres qui va être très utile de toute façon à notre transit, à notre flore bactérienne, puisque la flore bactérienne qui est avec nous en symbiose et qui nous aide finalement à bien digérer va se nourrir de ces fibres. Alors les minéraux, ben voilà, il y a tout en priorité le magnésium, le potassium, qui sont par exemple des minéraux dont notre corps a extrêmement besoin, qui rentrent dans des réactions biochimiques, mais importantes. Le magnésium, il a 300 actions dans notre corps, donc c'est indispensable pour nous, hein, que ce soit après certains pour la minéralisation des os comme le calcium, le potassium qui nous permet de réguler aussi notre tension. Voilà, ils sont indispensables à tout ce qui se passe dans notre corps, l'osmolarité de notre corps, et qui fait que voilà, nos organes fonctionnent bien. Les vitamines, elles aussi, ont des rôles hyper importants, hein. Elle rentre dans de nombreuses réactions chimiques. Elle nous protège de toutes les toxines qu'on peut avoir dans notre organisme. Elles vont nous aider à nous défendre, hein, comme la vitamine D au niveau immunitaire. Donc, c'est indispensable d'en avoir un apport très régulier, car on a des stocks. Pour certaines, on en a des stocks importants, mais certaines, on doit en apporter tous les jours parce que nos stocks ne sont pas suffisants.
Alors, je voulais peut-être parler un peu plus des lipides avec les acides gras essentiels.
Alors, les acides gras essentiels, ils sont dits justement essentiels parce qu'en fait, on ne sait pas les fabriquer. Notre corps ne peut pas les fabriquer. En fait, les lipides sont représentés donc par les acides aminés. Certains acides aminés, on est capable de les synthétiser à partir d'autres acides aminés, mais les acides aminés essentiels, cela, on ne peut pas. Donc, on va forcément devoir les trouver dans notre alimentation. Donc, ce sont surtout donc les oméga-3 dont on parle très souvent parce qu'ils nous protègent des inflammations. Ils vont rentrer en jeu aussi dans l'élasticité de nos artères. Donc, ils sont là pour maintenir la bonne santé de nos artères. Et donc, on va les trouver plus facilement dans le règne végétal avec les noix, par exemple, qui sont très riches en oméga-3, le lin, par exemple, qui en est aussi très riche, les noisettes aussi, par exemple.
Les graines de lin, c'est ça?
Oui, les graines de lin, c'est ça, exactement. Et donc, on peut les utiliser sous forme d'huile aussi, puisque on peut les retrouver sous cette forme-là. Alors, il faut être très attentif à l'utilisation de ces huiles, parce que ce sont donc des huiles qui sont très fragiles, parce que les oméga-3 sont très fragiles à la chaleur et à la lumière. Donc, ce sont des huiles que l'on doit, si possible, conserver plutôt dans le frigo, à l'abri donc de la lumière, mais surtout avec une température qui va rester stable. Et du coup, ce sont des huiles qu'on doit utiliser à cru. On ne doit pas les faire cuire. Donc, vous allez pouvoir faire une vinaigrette à base de colza, à base d'huile de noix ou de noisette ou de lin, voilà, mais pas les utiliser en cuisson.
Et il y a les 6, oméga 6, qui sont aussi, vous avez dit dans votre livre, très essentiels pour nous.
Tout à fait. Mais on doit faire... Enfin, les oméga 6, on les trouve assez facilement dans notre alimentation, en fait. Hein. Il y en a vraiment un petit peu de partout. Donc, ceux-là, ils sont... rarement en carence, en fait, des oméga 6, en fait. Hein. Vraiment, ils sont présents tellement dans de nombreux aliments. Alors, il y a bien sûr les protéines, les viandes ou les poissons qui vont en apporter. C'est pour ça qu'il faut faire plus attention aux oméga 3 qui sont plus difficiles à trouver dans notre alimentation. Donc, il faut toujours un très bon équilibre en plus entre les oméga 3 et les oméga 6, parce que les oméga 6 auraient tendance, si on en consomme trop, à être plutôt inflammatoires, alors que les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires. Donc, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Donc, je rajouterai juste d'ailleurs sur les oméga 3, qu'on va surtout en trouver aussi au niveau du règne animal, dans les poissons gras, hein, comme le saumon, les sardines, qui en contiennent de façon intéressante. Et les jaunes d'œufs, le jaune d'œuf qu'on va trouver plutôt sous sa forme, si possible, bio, avec le label bleu-blanc cœur, qui garantit justement que les poules ont été alimentées avec du lait. Et le lait, on a dit tout à l'heure, qui était riche en oméga-3, et bien les oméga-3 se retrouvent dans le jaune d'œuf.
Ah oui.
Donc, ce qui rend du coup le jaune d'œuf très intéressant. Voilà. Donc, voilà. Pensez au label bleu-blanc cœur présent sur la boîte d'œuf.
Alors, on continue avec mes oméga. Il y a les oméga 9. C'est quoi ?
Oui. Alors, les oméga 9 oléoïques, c'est ceux que l'on trouve dans l'huile d'olive, dans l'avocat en particulier. Donc ceux-là, ils sont intéressants, ils sont utilisés aussi pas mal par le corps, mais on les trouve aussi très facilement parce que, bon, après, dans la cuisine, moi, méditerranéenne que j'ai, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser plus facilement l'huile d'olive. On ne va pas les trouver dans le beurre, voilà. Hein. Dans les graisses animales, on n'en trouvera pas. Voilà. Mm-hmm. Donc il faut faire attention à ça.
Alors l'eau, quelle eau boire, celle du robinet ou bien les eaux minérales? Les eaux minérales sont intéressantes parce qu'elles ont des minéraux, elles comportent des minéraux dans leur composition.
Alors, les eaux minérales, certaines, oui, en fonction de là où elles viennent, voilà, elles sont plus porteuses, par exemple, de magnésium. Maintenant, boire une eau très riche en magnésium peut être mal tolérée au niveau digestif. Donc, ce ne sont pas des eaux, voilà, qu'on doit boire en priorité. On dit bien qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour.
Mais quelle eau ?
Attention. Les eaux qui sont riches en magnésium, vous voulez dire ?
Non, l'eau de boire, boire un litre et demi, est-ce qu'on peut...
Et demi d'eau ? Alors, on parle de l'eau du robinet, tout simplement, en fait.
Mm-hmm, hein, d'accord.
On ne donne pas forcément... En fait, on ne donne pas forcément de priorité, nous, à une eau minérale, sauf dans des cas particuliers, justement, une personne qui serait en manque de magnésium. On peut rajouter une eau riche en magnésium, mais on va lui demander d'en consommer 1,5 litre par jour, par exemple, mais pas tous les 1,5 litre que en eau. Donc voilà, l'eau du robinet est intéressante. Après, on peut partir sur des eaux minérales. Moi, ce que je conseille en règle générale, c'est quand même de les varier justement pour pas rester, parce qu'elles ont quand même une teneur en minéraux toujours la même. Et tant qu'à faire, autant changer d'eau et ne pas toujours consommer la même eau minérale.
Alors, si on n'aime pas boire l'eau et que on aime boire des infusions froides, du thé froid et des trucs comme ça, est-ce qu'il y a un problème d'avoir fait bouillir l'eau ? Est-ce que l'eau est dégradée une fois qu'elle a été...
Non ? Non, non. Il reste toujours les sels minéraux. Bien sûr, il peut y avoir des dépôts. Hein. Vous voyez ce qu'on voit au fond de la casserole. Voilà, hein, c'est en général le calcaire qui va se déposer. Mais non, on peut utiliser l'eau comme ça. Les minéraux ne sont pas détruits par la chaleur, contrairement aux vitamines, par exemple, certaines vitamines qui sont fragiles à la chaleur. Donc, non. Alors là, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est en termes de boissons, le thé, le café, qui contiennent quand même soit de la théine, soit de la caféine, qui sont quand même des excitants. Donc, on ne peut pas toujours que boire du thé ou du café, donc il faut limiter quand même cette consommation-là, sachant que certains thés, comme les thés verts, vont aussi empêcher l'absorption du fer, par exemple, donc il faut mieux les placer éloignés des repas, hein, d'accord, sauf si on a vraiment un taux de fer très élevé dans le sang, à la limite, ça peut être intéressant si on veut limiter l'absorption du fer. Et voilà, donc ça, il faut faire attention. Et après, tout ce qui est infusion tisane, ça peut être très intéressant. Au contraire, il y en a certaines en plus qui ont des vertus, hein, comme la camomille ou le thym, par exemple, qui peut aider à la digestion. Ça peut être une façon de boire plus facilement pour les personnes qui auraient du mal à boire de l'eau. Et dans ces cas-là, pourquoi pas?
Alors, je reviens, parce que tout ce que vous avez dit est très passionnant, et il y a des petits points que je voudrais affiner, peut-être, par rapport aux lipides, le cholestérol. On m'a dit que le cholestérol, le corps, et même vous l'avez dit qu'à 80%, le corps fabriquait du cholestérol, et que les 20% restants étaient un apport de l'alimentation. Alors, le corps fabrique du cholestérol, donc si on a des analyses fautives, est-ce qu'on peut faire quelque chose par sa diète alimentaire ?
Alors, il est évident que là, il y a eu toute une étude à faire pour en fonction de la personne, parce que on peut se retrouver donc avec une personne qui va avoir une alimentation qui déjà n'est pas équilibrée et qui est une alimentation plutôt qui va vers les aliments ultra transformés. Voilà, ça c'est vraiment là, on peut vraiment faire quelque chose parce que clairement cette personne, c'est de par son alimentation qu'elle elle a peut-être ce taux de cholestérol très élevé. Donc là, la priorité, bien sûr, c'est d'arrêter tous les produits ultra transformés, revenir vers une alimentation plutôt par du fait maison. Là, on est sûr d'avoir moins de graisses saturées et de mauvaises graisses. Il y a des graisses qu'on retrouve, il y a un terme qu'on peut lire très facilement dans la liste des ingrédients des produits ultra transformés, c'est le terme graisse hydrogénée ou trans. Hein, on va les appeler comme ça, ça s'appelle comme ça. Donc, ce sont des graisses qui ont été transformées pour finalement que le produit ne rancisse pas. Vous voyez, quand vous faites une brioche à la maison avec du beurre, vous pouvez pas la garder X jours. Hein. Vous sentez bien que voilà, le produit va durcir, voire le beurre va rancir à température ambiante. Et bien là, ces graisses-là ont été transformées justement pour que ça n'arrive pas et que du coup, votre brioche dans le sachet, elle dure un mois, deux mois sans modifier sa texture. Voilà, donc... ces graisses-là, du coup, ne sont pas naturelles et elles favorisent la production de cholestérol au niveau de l'organisme. Donc, voilà, c'est pour ça que les personnes qui mangeraient ou que des fast-foods, voilà, ou que des produits industriels à longueur de journée auraient tout intérêt, si elles ont du cholestérol, de toute façon, à arrêter et revenir vers une alimentation plutôt fait maison.
D'accord.
Donc, c'est ça qui va avoir vraiment beaucoup d'impact. Après, bien sûr, l'équilibre nutritionnel, favorisant l'apport en fibres, les fibres empêchent l'absorption du cholestérol au niveau des intestins. Donc, ça, c'est une autre piste.
C'est un filtre, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Ça emprisonne le cholestérol.
Très bien.
Après, on s'est aperçu dans des recherches que voilà, supprimer complètement le cholestérol de son alimentation, par exemple, aurait plutôt pour effet d'emballer le foie, parce que c'est le foie qui fabrique le cholestérol, et il aurait tendance à en fabriquer plus. Vous voyez, donc il faut trouver le bon équilibre, d'où l'intérêt de cette alimentation équilibrée.
Il y a aussi un point que j'aurais voulu vous demander de m'aider à comprendre, c'est la fonction glycogénique du foie. Le foie stocke par cette fonction.
Oui, alors en fait on a des petites réserves en sucre, en glycogène en fait, c'est une réserve accessible très facilement en fait. Vous voyez, vous êtes dans un gros effort, c'est ça que votre corps va utiliser, c'est ce glycogène. Il ne va pas utiliser le gras, vous voyez, parce qu'il faudrait qu'il ait le temps de transformer ce gras en énergie pour l'amener à l'endroit nécessaire. Donc le foie en fait fabrique au cours de la digestion, voilà, il va récupérer des glucides et il va en fabriquer du glycogène et qui va stocker en partie, et il y a une partie qui sera stockée aussi dans la masse musculaire. Voilà. C'est ce sucre-là, en fait, sous cette forme-là, le glycogène, qui est, c'est du sucre lié à de l'eau, qui est utilisé en premier quand on fait des efforts.
Alors, aussi pour les farines, les farines complètes, est-ce que, par exemple, si je mange du pain complet, est-ce que ça peut me permettre de manger plus de pain que si je mangeais du pain blanc? Est-ce qu'on peut, alors, on peut profiter de cette T150, farine T150, ça me permet un peu plus de liberté avec le pain, voilà.
Ah ben non, en fait, que vous preniez un pain fait avec une farine T150 ou T45 ou T55, en fait, donc sachant que pour nos auditeurs, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, la différence, c'est l'apport en fibres, c'est-à-dire qu'une farine, au plus le T est élevé, bien finalement la farine aura été moins raffinée, donc elle va contenir plus de fibres, c'est-à-dire les fibres de l'enveloppe du blé. Donc on a une farine qui va être plus dense et qui va permettre d'avoir un pain plus riche en fibres qui va caler plus. Du coup, si on regarde 50 g de pain complet avec 50 g de pain blanc, alors on peut avoir une différence visuelle parce qu'on va avoir un pain plus ferme, donc on a l'impression d'avoir une tranche peut-être un petit peu plus un peu moins grosse pour un pain complet, mais à l'arrivée, c'est cette tranche-là qui va vous caler le plus, parce que les fibres finalement vont se gonfler après avec l'eau dans l'estomac, etc. Donc vont vous caler plus, vont ralentir la digestion, ce qui va permettre finalement de tenir plus longtemps. Donc le matin, consommer ce type de pain, c'est quand même plus intéressant parce que ça va vous apporter beaucoup plus de satiété, vous allez être rassasié beaucoup plus longtemps sur la matinée que si on prend du pain blanc qui va être digéré du coup beaucoup plus vite puisqu'il contient moins de fibres.
Très bien. Et puis une question aussi sur l'alimentation bio. Est-ce que si on mange normal, qu'on ne mange pas bio, est-ce qu'on est coupable envers soi-même ?
Non. Aujourd'hui, enfin, par rapport à la législation française, quand même, les produits sont quand même très contrôlés. Alors, c'est vrai que bio, on aura moins de pesticides dans le produit. Alors, je pense aux légumes, par exemple, voilà. Mais je pense qu'il faut. Il faut que chacun, après, fasse ses choix, hein, parce que ça peut avoir un certain coût aussi de manger bio, c'est pas évident. Et je pense qu'il faut pas culpabiliser les gens qui ne peuvent pas manger bio. Pour autant, ils vont pas être en mauvaise santé du moment qu'ils ont une alimentation équilibrée, variée, qu'ils font la plupart des choses d'eux-mêmes. Ça évite comme ça le cumul d'additifs ou autres qu'on peut trouver dans des produits ultra transformés. Après, il y a forcément des choses à faire quand on a des légumes qui sont pas bio, on va peut-être prendre plus le temps de les peler pour enlever les pesticides qu'ils pourraient avoir en périphérie. Alors on sait bien qu'on peut perdre une part des vitamines qui sont malheureusement très proches des peaux, vous voyez. Voilà. Mais voilà, il faut pas que personne culpabilise si on peut pas forcément acheter tous les produits bio non plus.
Le soja, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que sous quelle forme est-ce qu'on peut l'avoir ? Sous quelle forme est-ce qu'on le trouve ? Comment manger du soja ?
Alors le soja, c'est vrai qu'aujourd'hui il est pas mal utilisé aussi en tant que protéine. On va le trouver dans des produits ultra transformés. Hein, on va ajouter des protéines de soja pour donner des fois de la consistance à un produit. Mais on trouve aussi des boissons végétales à base de soja. On trouve aujourd'hui des yaourts, etc. Alors il y a un principe de précaution à l'heure actuelle qui dit de limiter la consommation globale de nos apports en soja par jour. je pense que là, à ce niveau, il faut encore qu'on avance, hein, parce que c'est pas encore très 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 clair au niveau des recommandations. Même nous, on n'en a pas des fermes, hein, voilà, à cause de, la plupart du temps, ce sont à cause des hormones œstrogènes, parce que il pourrait avoir soja des actions, mais on a encore des aujourd'hui des données qui se contredisent. Alors c'est un peu compliqué. Maintenant, si je puis dire, c'est que il faut rester donc toujours prudent et peut-être donc on dit de limiter à la consommation d'un produit à base de soja par jour. Voilà, si on consomme un steak de soja, on va peut-être éviter de boire un verre de lait de soja en plus, par exemple.
Que pouvez-vous nous dire sur le tofu ?
Voilà, ce qui est une protéine de soja qui est hyper intéressante parce qu'en fait, le soja apporte tous les acides aminés. Parce qu'une protéine est composée d'acides aminés, notre corps a besoin d'un certain nombre d'acides aminés et le soja, il est parfait parce qu'il amène tous les acides aminés dont notre corps a besoin. Donc, c'est une bonne alternative pour diminuer notre consommation de viande, par exemple. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans des plats parce que on le trouve alors soit sous forme en tofu ferme ou soyeux. Alors, le soyeux, on va plus... c'est comme une crème, on va plus facilement l'utiliser dans une préparation en le mélangeant à d'autres aliments, par exemple, alors que le tofu ferme, on va peut-être plus facilement en faire des petits dés, qu'on va d'abord faire mariner, parce que ça n'a pas de goût, en fait, hein, c'est très fade, donc on va le faire mariner, ça peut être dans une sauce soja, mais ça peut être dans de l'huile et du citron et du romarin, par exemple, et après on le fait revenir et on va l'associer avec un légume, un accompagnement, par exemple, on peut très bien le manger froid comme chaud d'ailleurs dans une salade.
Alors, on va revenir maintenant au début sur la naissance de ce livre. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de followers, des suiveurs. Est-ce que c'est par rapport à tous ces échanges que vous avez eus avec vos patients sur Instagram ou bien sur Facebook, est-ce que ce sont ces textes qui ont donné la matière de ce livre ?
Alors à la base, quand j'ai créé mes réseaux sociaux, moi, ce que je voulais, c'était juste partager mes recettes avec mes patients. C'est parti de là, en fait. Et c'est vrai que ça m'a ouvert encore plus d'horizons, puisque finalement, j'ai eu encore plus de contacts avec des gens, à échanger, et j'ai pu me rendre compte, justement, qu'est-ce qui manquait. Qu'est-ce qui manquait le plus aux gens. Et qu'est-ce qui manquait le plus ? Ben, c'était comprendre l'équilibre nutritionnel de façon simple, sans injonction. Moi, je vois que sur les réseaux sociaux, on veut souvent imposer. Faut pas manger ci, faut pas faire ça. C'est pas ce que vous verrez ni dans mon livre, ni sur mes réseaux sociaux. Moi, ce que je veux apporter, c'est de la simplicité, c'est revenir aux fondamentaux, aux bases d'une alimentation simple, équilibrée, facilement, sans se dire ça c'est interdit ou ça j'y ai pas droit. Pour moi, il y a aucun aliment qui doit être interdit, en fait. Hein. On doit juste apprendre à composer, parce que même si à l'état, je dirais, naturel, on serait capable, en fait, de manger équilibré, aujourd'hui, avec la société, le fait qu'on puisse pousser un caddie aujourd'hui dans une grande surface et le remplir, on se pose plus la question, vous voyez, on va pas chasser, pêcher, vous voyez, on n'a pas à gérer nos stocks, donc du coup, on s'est éloigné de cette alimentation équilibrée, naturelle. Et au travers des réseaux, moi j'ai vu voilà trop de choses qui étaient trop dures et donc j'ai voulu moi faire les choses de façon beaucoup plus simple, d'où ma méthode du code couleur et qui a mené jusqu'au livre parce que c'était une façon de toucher encore plus de monde.
Alors, revenir un petit peu sur ces aides culinaires, que sont les épices, les condiments, les édulcorants. Alors, les édulcorants, est-ce que le cerveau réagit à cette promesse de sucre dans une sucrète ? Et est-ce qu'il a une réaction lorsqu'il voit qu'il n'y a pas le sucre qui est venu, qu'il n'y a que la saveur du sucre, mais que l'élément de sucre n'est pas là ?
Alors ça, c'est tout encore un discours. Enfin, c'est ce qu'on a pensé pendant un certain temps, que finalement le corps allait stocker plus si on lui avait donné une promesse et qu'il ne l'avait pas eue. Ça s'avère que non, en fait, hein, le corps il stocke s'il a du surplus, tout simplement. Maintenant, ça peut avoir plus un rôle peut-être psychologique, dans le sens où si on n'a pas la satisfaction. Moi, je suis pas pour les édulcorants, je le dis tout de suite, parce que je préfère que mes patients apprennent finalement à apprécier, à gérer un apport en sucre qu'ils ont dans la journée, plutôt que d'essayer de biaiser le truc en prenant plus d'édulcorants, par exemple. Parce que justement, je pense que le goût de l'édulcorant n'a pas réellement le même goût que le sucre. Voilà, je vais avoir des gens qui vont me dire ben, ça laisse un arrière-goût dans la bouche, c'est ou amer, ou il y a un goût de réglisse, ou je sais. Et en fait, du coup, on n'est pas réellement satisfait. Donc, on peut avoir tendance, finalement, à avoir de la frustration et de chercher encore plus de goût sucré derrière. Et d'autres personnes vont utiliser des produits riches en édulcorants pour donc consommer ce goût sucré. Mais pour moi, on ne traite pas vraiment le problème. Du coup, ok, on donne un produit qui n'apporte pas de calories, c'est un substitut au sucre, mais si la personne est, entre guillemets, très attirée par le sucre, qu'est-ce que ça cache ? Voilà. Et je pense que c'est intéressant de le découvrir, justement, pour que la personne, on puisse lui apprendre, justement, être plus à l'écoute de ses véritables besoins. Le sucre, tout ce qui est sucre et sucrerie, si vous voulez, la plupart, ce sont des calories vides, en fait. Ça apporte de l'énergie, donc ça apporte un plaisir gustatif, mais ça n'apporte pas de minéraux, de vitamines, ou par exemple, vous voyez.
Si les édulcorants ne sont pas à élire comme sucre. Ça. Si le sucre blanc, ce sont des calories vides, alors qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que le miel, quel rôle peut jouer le miel ?
Tout à fait. Le miel, qui est un sucre naturel, a bien plus d'intérêt parce qu'il est porteur aussi de sels minéraux, comme le sucre complet, qui lui n'est pas un sucre raffiné comme le sucre blanc. En fait, le sucre blanc, on l'a retiré en fait toutes ses fibres, toutes ses sels minéraux en fait, donc il n'a plus d'intérêt par rapport à un sucre complet. Déjà, on pourrait basculer très facilement là-dessus. On commence à en trouver quand même très facilement, que ce soit en poudre ou que ce soit en grains maintenant. Hein. Et ce sucre est plus intéressant parce que il a plus de goût. Donc, on va avoir tendance à en mettre moins puisqu'on lui a enlevé moins de choses. Finalement, il est gustativement, il est plus intéressant. Donc, dans une recette, on va pratiquement pouvoir diviser par deux la quantité de sucre complet par rapport à la recette de base qui propose du sucre raffiné comme le sucre blanc. Pareil pour le miel, on peut mettre deux fois moins de miel par rapport à un sucre blanc dans une pâtisserie parce que déjà le miel, il a du goût et donc il apporte des saveurs en plus de ce côté sucré. Et il a un pouvoir sucrant qui est plus élevé que le sucre blanc. Donc on en met moins.
Alors, vous avez établi des menus pour que chacun puisse trouver goût et plaisir à manger. Alors, certains se disent flexitariens, d'autres végétariens. Est-ce qu'il y a comme ça beaucoup de communautés par rapport à l'alimentation ? Et c'est quoi flexitarien ?
Flexitarien, c'est quand même une alimentation variée, dans le sens où on va alterner ses protéines, donc entre des protéines animales et des protéines végétales. Donc on peut manger de la viande, des œufs, du poisson, et on va alterner avec les légumineuses ou le tofu, comme on a parlé tout à l'heure, et les œufs bien sûr. Végétarien, il y a plusieurs, on va dire, niveaux. Il y a le végétarien, le végétalien. Le végétarien, lui, va quand même, il peut être ovo-lacto-végétarien, donc consommer encore des œufs, des produits laitiers et des protéines végétales. Et le végétalien, lui, va avoir tendance, alors bon, il y a le vegan après à côté, mais va avoir tendance à enlever tous les produits qui viennent des animaux, donc aussi bien les œufs que les produits laitiers. Il y a quand même un panel assez large, chacun après, en fonction de ses envies ou de ses convictions, en fait, fera ses choix. Mais ce qui est très important, c'est que les personnes qui vont vers le végétarisme soient quand même accompagnées ou en tout cas bien informées pour être sûres d'avoir une alimentation équilibrée.
Alors, de par les pathologies hivernales et pandémiques liées, entre parenthèses, au coronavirus, les systèmes immunitaires des gens sont chamboulés. Alors, quelles recommandations vous pourriez nous faire pour remédier à travers notre alimentation à ces aspects-là ?
Alors déjà, bien faire attention à sa vitamine D et profiter quand même un petit peu des rayons de soleil qu'il peut y avoir en tout début d'après-midi, là où le soleil est le plus haut, parce qu'il faut quand même fabriquer notre propre vitamine D, alors même si on la trouve un petit peu dans l'alimentation, mais pas tant que ça, c'est surtout l'ensoleillement qui va nous permettre, et la vitamine D va nous aider à nous protéger. Et après, les apports en vitamine C, surtout, qui vont nous aider à combattre toutes ces petites infections. Et la vitamine C, bien sûr, on va la trouver dans les légumes et les fruits, surtout de saison. Voilà, il faut faire très attention, puisque la vitamine C est quand même assez fragile. Donc, au plus on a des produits de saison, au plus le taux de vitamine C sera élevé. Donc là, on va profiter de l'arrivée des kiwis, parce que les kiwis, on n'y pense pas toujours, mais ils sont presque deux fois plus riches que l'orange.
Mmh. Voilà. Très bien.
Et on pense à les manger entiers, en tout cas par rapport à l'orange, on évite le jus, même si on le presse soi-même, parce qu'au finalement, on va perdre un petit peu les fibres qu'on n'aura pas si on mange l'orange entière.
Donc l'orange, faut la manger plutôt que la boire, parce qu'on perd toutes les fibres, toutes les enveloppes du jus, quoi, les petites vésicules. Voilà.
Et exactement.
Quels sont les soucis des gens lorsque vous échangez avec vos lecteurs, avec les gens qui vous suivent? Et quels sont les soucis qui reviennent souvent?
Souvent, et c'est ce que j'ai justement voulu apporter moi sur mes comptes, que ce soit sur Facebook ou Instagram, en mettant des recettes très simples. En fait, souvent les gens me disent que ça leur paraît compliqué de faire la cuisine, de penser au menu, voilà, qu'ils reviennent, enfin ils font toujours les mêmes choses. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on court tellement dans tous les sens, on a une vie trépidante, on a envie de passer du temps plus avec nos enfants, on a envie d'avoir des hobbies, du sport, on a envie de moins passer de temps en cuisine. Donc les gens sont souvent très en recherche, ils sont surtout en recherche de recettes faciles à faire, équilibrées, et qui puissent le faire bien sûr pour toute la famille. Voilà, c'est vraiment l'évolution que moi j'ai pu voir aussi sur mes 30 ans de libéral, vraiment ce changement, où avant, il y a 30 ans en arrière, je rencontrais pas ces difficultés-là. Les gens cuisinaient plus facilement, se posaient moins de questions sur la cuisine. Aujourd'hui, c'est plus ce que je rencontre, en tout cas. Voilà. Les gens sont donc très friands de recettes faciles, parce qu'ils ont peur aussi, des fois, de rentrer en cuisine. Moi, je vois des gens qui me disent « mais j'ai peur, je suis nulle, j'y arriverai jamais ». Voilà. Donc, mes petites fiches ludiques, là, que je fais, mm-hmm. c'est pour rendre accessible, en fait, le plus possible, et donner envie, moi, mon motif, c'est que voilà, quand j'ai posté quelques heures après, la personne va me dire ah ben tiens, j'avais tout dans ma cuisine, voilà, avec des choses simples aussi que tout le monde a chez soi. Voilà, j'ai pu réaliser la recette pour ce soir. Voilà, ça c'est, je suis trop heureuse quand je vois ça après.
Est-ce que parfois on vous demande des conseils pour aider à perdre un peu cette fatigue chronique que l'on ressent même au lever du lit, pour aider aussi parfois à s'endormir plus facilement? Est-ce que vous, ce genre de questions aussi vous arrive?
Oui, plus la qualité du sommeil. Là, c'est vraiment, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, mais c'est moi souvent qui vais l'inciter, en fait, ça, parce que souvent les gens n'associent pas le problème de sommeil avec l'alimentation. Moi, c'est une question qui fait partie de mon interrogatoire. Quand j'ai un patient pour la première fois, je lui demandais des questions sur sa qualité de sommeil. Ça va pas venir systématiquement. Et donc, c'est en fonction, après, bien sûr, du bilan que je vais en faire de la personne, que je vais pouvoir m'apercevoir s'il y a un problème au niveau de l'alimentation ou pas. Et des fois, on se rend compte que les gens, ou le soir, mangent trop tard, par rapport au moment du coucher. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils se couchent en pleine digestion et que ça va repousser le moment où ils vont pouvoir s'endormir, ou voire ils vont se réveiller. Alors, ils vont s'endormir par la fatigue, ils vont se réveiller. Forcément, ça va avoir des répercussions sur leur récupération. D'autres personnes qui ne mangent à côté de ça, pas assez. Donc, il y a vraiment les deux extrêmes. Les gens qui, parce qu'ils veulent faire attention au poids, etc., vont avoir tendance à serrer un petit peu la ceinture le soir. Ils vont se contenter d'une soupe et d'un yaourt, et qui, finalement, finalement vont avoir du mal à s'endormir parce qu'ils n'ont pas suffisamment mangé et n'ont pas les nutriments nécessaires pour la fabrication, par exemple, de l'hormone, la mélatonine, qui va leur permettre de dormir. Voilà. Donc ça va avoir forcément des répercussions sur la fatigue et après, bien sûr, sur le lever. Mais souvent, comme je disais, les gens n'ont pas l'idée au départ que le sommeil peut être lié à leur alimentation. Alors que très souvent, c'est le cas.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez, pour finir, nous proposer comme dîner idéal pour être calé, pour dormir bien, pas en pleine digestion, et pour avoir l'eau, les nutriments qu'il nous faut pour passer une bonne nuit?
Alors déjà, il faudra prévoir de manger au moins 2 heures avant l'heure du coucher. C'est important. Et après, on pourra composer, par exemple, en protéines, apporter une volaille. Les volailles sont intéressantes parce que d'abord, elles sont riches en tryptophane qui permet aussi la fabrication de la mélatonine. C'est une viande qui ne contient pas de fibres, donc qui se digère très facilement. On l'accompagnera forcément d'un féculent. Après, ça peut être, si on veut, du riz, des pâtes, des pommes de terre, avec un légume qui peut très bien... Et de préférence, là, l'hiver, on va être sur les soupes, hein, donc ça peut très bien être un potage. Et puis après, on va accompagner d'un produit laitier ou d'un équivalent végétal, si on aime ça, et d'un petit fruit. Et bien sûr, on n'oubliera pas de rajouter une petite touche d'huile d'olive dans ses légumes, ou pourquoi pas une noisette de beurre, si on veut. Le fait de mettre des éléments... des lipides, mais crus, facilite aussi la digestion. On évitera les fritures, par exemple, le soir.
Eh bien, Myriam Moussier, c'est un livre passionnant et vraiment que l'on reprend tout au long des jours, et parce qu'il y a des explications, il y a des conseils, il y a des recettes, et ça met vraiment à notre portée l'alimentation équilibrée. D'ailleurs, le titre du livre est « L'équilibre dans l'assiette, une méthode simple et ludique pour retrouver du plaisir à manger », c'est chez Flammarion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Solange.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.